Henri de Régnier, La double maîtresse, première partie, chapitre 8. Lorsque, l'an d'après, la saison s'avança où Julie devait revenir à Pontaubel, Madame de Galando fit de grandes plaintes. Elle n'avait, tout le long de l'année, marqué aucun souci d'avoir des nouvelles de sa nièce, et Nicolas, esclave de toutes les humeurs de sa mère, n'avait pas une fois osé lui offrir d'en aller chercher au Fresnay comme il le désirait vivement. Madame de Galando blâmait aigrement la manière d'y vivre et se lamentait que Julie y eût dû prendre des habitudes où elle n'aurait certes pas manqué de perdre le peu de bons principes dont on avait tâché de la pourvoir. Tout cela avait bien dû s'évaporer au bruit du violon et du clavecin et au parfum des pâtisseries et des confitures. Et Madame de Galando grondait contre ces gens qui entreprennent d'élever une fille en lui enseignant, pour tout art, à chanter et à confire sans même prendre le soin, à coup sûr, de lui apprendre les chiffres ou l'alphabet. Non, certes que Julie eut besoin de devenir savante. Elle n'aurait guère le temps de lire ni l'occasion de compter, car une fois grande, elle n'aurait point à être bel esprit ni habile intendante. Un petit mariage l'attendait, avec peu de biens à administrer et force soins domestiques. Elle n'aurait pour dot que sa part de Bas-le-Pré dont le revenu était mince et qu'il fallait partager avec sa tante Armande et dont ne s'accommoderait guère qu'un époux de médiocre état. Aussi, Madame de Galando trouvait-elle utile d'enseigner à sa nièce l'ordre, l'économie, le ménage et la couture, tout ce qui convient à une fille pauvre, avec assez de religion pour accepter son sort tel que Dieu le réglerait d'après ce qu'il semblait en laisser prévoir. Nicolas laissait dire sa mère. Il se proposait tout bas d'instruire Julie. Sans se croire grand maître, il se jugeait capable de lui donner quelques éléments de lecture et d'écriture, et il s'ouvrit à sa mère de ce projet. Elle le trouva à son gré, y voyant plus pour son fils une occupation qu'un avantage pour sa nièce. On en convint et on put voir Nicolas, par les allées, un livre à la main, repassant sa grammaire et traçant sur le sable, du bout de sa canne, de grandes lettres d'essai. Madame de Galando, avec plaisir, le vit s'attribuer ce rôle de pédagogue, se réservant pour sa part le soin de diriger la conduite de sa nièce et de la chapitrer, de veiller à ses écarts et de la ramener à la discipline, ce qui arriva promptement. Le lendemain du jour où Julie reprit possession de sa petite chambre, elle se réveilla de grand matin. Dans son lit, elle se mit, les yeux clos, à fredonner un air, puis peu à peu à le chanter. Sa voix claire et aiguë retentissait dans le frais silence matinal. Julie, distraite, se croyait encore au Fresnay. Elle se ravisa vite et se tut, toute confuse, mais trop tard pour que Madame de Galando, qui ne dormait guère, ne l'eût entendue de son appartement, qui était proche, et de trois coups secs frappés à la muraille, avertie de son inconvenance. Julie, dépitée de la semonce, mordit sa lèvre qu'elle avait rouge et charnue et la marqua de l'empreinte de ses fines dents. Elle touchait à un âge charmant, grandi et commençant à s'effiler. Dans son visage tendre et rond s'en ébauchait un autre, encore incertain, mais qu'on pressentait délicieux. Son gros petit corps s'amincissait déjà gentiment, toute sa personne indécise semblait en train de se chercher une proportion exacte. Elle allait sur ses 10 ans. Elle eut bientôt fait de réapprendre Pontaubel, ses habitudes et ses habitants. Elle mettait une sorte d'adresse naturelle à y passer inaperçue, faisant peu de bruit et tenant peu de place. Il fallait la voir gravir lestement, fraîche et furtive, les escaliers sonores, parmi les longs corridors, et dans la vaste pièce où elle travaillait à la couture, en face de Madame de Galando, juchée sur un haut tabouret, suçant avec une moue contrite et futée le bout de son doigt piqué par la pointe de l'aiguille. Avec Nicolas, seule, elle redevenait ce qu'elle était réellement. Une fillette turbulente, vive et moqueuse. Le vrai signe de l'amitié pour les enfants est d'oublier qu'on n'a point leur âge. Une fois cette égalité établie, ils en abusent à leur profit, avec une aisance admirable. Aussi imposait-elle à Nicolas mille choses qui semblaient fort simples et toute naturelle à la pensée de la petite fille, et qui rendait fort comique ce grand garçon timide et dégingandé, comme de s'amuser avec elle pendant des heures à construire dans le sable, avec des murailles de cailloux et des arbres de branchettes, des jardinets en miniature. Il faisait vraiment beau voir le cousin Nicolas à l'ouvrage, les mains terreuses, au point qu'il osait à peine, en cet état, rentrer au château, et près de lui, ouvert sur le gravier, le rudiment que l'honnête garçon apportait chaque jour avec lui dans l'espoir d'en inculquer quelques règles à cette capricieuse petite tête. Ce n'était qu'après bien des jeux que Julie consentait à s'asseoir sur le banc pour écouter la leçon. Elle se mettait à épeler avec beaucoup de sérieux et de bonne volonté, tout en suivant du coin de l'œil son pied qu'elle balançait en mesure, de façon à effleurer sournoisement du talon les bas de son distrait professeur qu'elle tachait de poussière. Sa malice finissait par la faire éclater de rire sans que Nicolas, interloqué, sût au juste pourquoi elle riait ainsi. La leçon continuait tant bien que mal jusqu'à ce que Julie se laissa glisser doucement du banc. C'était la fin et alors la poursuite commençait. Julie mettait à ce jeu une imagination et une ardeur extraordinaires. Elle ne se fatiguait jamais de ce divertissement auquel son cousin se prêtait avec une bonne grâce et une patience infinie. Il se cachait derrière les arbres, juste assez pour se laisser voir. Il courait à grandes enjambées, juste assez pour se laisser rejoindre et pour donner à la petite fille le sentiment qu'elle allait être atteinte sans lui en infliger l'affront, dont elle n'aurait pas supporté la contrariété, en mauvaise joueuse qu'elle était. De là, entre eux, des querelles furieuses et risibles, car Nicolas faisait quelquefois mine de s'apercevoir des tricheries de Julie et de résister à ses caprices. Quelquefois même, il résistait pour de bon et les deux compagnons se disputaient. Nicolas oubliait son âge et traitait Julie comme si elle eût le sien. Alors, c'était des cris, des colères et surtout des bouderies où ils se montraient aussi obstinés l'un que l'autre. Puis, enfin, le bon sens revenait à Nicolas et il se considérait avec surprise et confusion, debout dans sa grande taille, faisant face du bec et des ongles à une bambine de 10 ans, comme un échassier en querelle avec une linotte. Le sentiment de cette disproportion mettait d'ordinaire fin à la brouille par le consentement habituel de Nicolas à ce que voulait de lui Julie. En conséquence de ces raccommodements, la fillette obtenait ce qui l'amusait le plus au monde, une promenade au miroir d'eau, soit de suite, soit pour le lendemain. C'était un des plus agréables endroits des jardins de Pontaubel. Le feu comte avait fait creuser là un bassin pas très vaste, mais assez profond et fort propre à mirer les beaux arbres qui l'entouraient. 4 pentes de talus de gazon en encadraient les 4 pans. Une allée étroite et sablée le bordait, et Julie, qui aimait fort à la suivre, n'en recevait la permission qu'avec la promesse de ne point quitter la main de Nicolas. Là-dessus, il se montrait intraitable, autant par prudence que pour le plaisir de tenir entre ses doigts la menotte qu'il y sentait toute vive d'impatience et de curiosité. Le tour fini, Julie voulait recommencer. Pour avoir la paix, le naïf Nicolas offrait d'aller à ce qu'on appelait le petit bassin. Julie lançait un dernier regard vers l'eau somnolente où s'engourdissaient des carpes paresseuses qu'on entrevoyait bleuâtres et fluides et comme à demi-mortes en leur bronze charnu. Le petit bassin se trouvait en contrebas du grand et à quelque distance. Il était orné à ses angles de figures marines et à son centre d'un triton qui levait d'un geste sa conque en spirale vers sa bouche toute gonflée du souffle de ses joues. Madame de Galando, qui n'aimait pas les dépenses inutiles, avait laissé se perdre peu à peu ce jouet hydraulique, mais en ouvrant les conduites à demi rompues, on obtenait encore qu'un mince filet d'eau s'écoutât de la conque obstruée. Cela suffisait à amuser Julie, mais non à remplir le bassin, qui, l'été, tarissait complètement et écaillait sous le pied sa sécheresse limoneuse. Julie y descendait, puis, montée sur le dos du triton, elle attendait et battait des mains quand Nicolas soulevait par son anneau de fer une dalle de pierre et y introduisait une sorte de clé à cet usage. Ses petits bras autour du cou, sa joue contre la joue de la figure marine, elle écoutait avec une attention passionnée. La statue, silencieuse plus ou moins longtemps, semblait enfin s'animer d'un bruit mystérieux et presque imperceptible qui sourdait dans son corps de bronze. L'eau arrivait lentement en elle, montait doucement avec un gargouillis léger, comme une sorte de fluide circulation intérieure. Peu à peu, elle atteignait la poitrine, semblait s'y épandre, puis, dans un hoquet sourd, passait la gorge, emplissait la bouche et débordait dans la conque, d'où elle coulait en fils de cristal et en gouttelettes claires. Alors Julie trépignait de joie, et il fallait, pour l'emmener de là, que Nicolas fermât les conduites et lui promît de revenir bientôt à ce délicieux plaisir. Le temps passait. On arrivait à la mi-septembre, et Nicolas n'avait guère manqué un jour à cette servitude de son choix. À peine si sa mère lui demandait parfois où en étaient les leçons de Julie. Elle les supposait brèves et irrégulières et ne pensait pas que son fils y consacrât plus de temps qu'il n'en fallait pour satisfaire à un devoir qu'elle avait été fort aise de lui voir s'imposer et qui lui semblait en son fils une marque de sérieux dans le caractère. Nicolas, par contre, cachait soigneusement sa camaraderie avec sa cousine. C'était un coin réservé de son existence et il se sentait fort jaloux de ce petit secret qui lui tenait fort à cœur. Du reste, il n'avait guère à craindre d'indiscrétion. Le jardin était désert. Le vieux jardinier Hilaire y rôdait seul. Le bonhomme sarclait ou ratissait. Le potager soignait le matin. L'après-midi, il promenait son râteau devant les fenêtres du château. On était d'ailleurs averti de sa présence par l'aigre bruit de son travail. De plus, il détestait assez Madame de Galando à cause de l'abandon où elle laissait les jardins et il vénérait la seule mémoire de feu Monsieur le Comte. Il ne tarissait pas en éloge sur l'ancien train du château, si diminué aujourd'hui, tellement que Madame la Comtesse leur ferait à tous couper la gorge à vouloir habiter avec si peu de monde une grande bâtisse assez loin du village pour qu'on n'en entendît pas crier au secours. Quant à Madame de Galando, elle sortait de moins en moins de son appartement. La messe du dimanche et rien de plus. Quoique se portant fort bien et s'étant toujours bien portée, elle donnait dans la maladie imaginaire, craignant le froid, le chaud, la pluie, le soleil et le vent. Cette méfiance naturelle s'accroissait avec l'âge jusqu'à devenir une sorte de manie qui lui faisait redouter l'approche des gens à cause des épidémies qu'ils peuvent communiquer, même à leur insu, s'ils en apportent avec eux les miasmes sans en avoir les principes. Aussi refusait-elle de recevoir le curé qui, par métier, visite les malades. Quand le notaire venait de la ville pour quelque affaire, M. Levasseur, habile homme en qui elle avait confiance, en traitait pour elle d'importante, elle lui faisait jurer qu'il n'eût pas récemment, au chevet de quelque moribond, été prendre quelque testament ou consigner quelque donation. Elle vivait ainsi, recluse, inquiète et calfeutrée, et malgré tout, assez à la dure et avec peu de soucis de ses aises, sans nulle délicatesse véritable pour elle-même, mais avec mille précautions contre des maux incertains qu'elle prévenait par des recettes bizarres dont elle avait un livre plein et la tête farcie. Elle montrait en effet un goût singulier à se médicamenter, recourant plus volontiers à l'empirique qu'au médecin, d'autant mieux que sa forte santé avait moins besoin de remèdes que sa lubie de drogue. Elle employait beaucoup de temps à en fabriquer de toutes les sortes, en tisane, onguent, collyre, en plâtre, toute une pharmacopée baroque. Elle avait auprès de sa chambre une véritable officine d'apothicaire où elle s'enfermait pour composer des panacées dont elle étudiait ensuite sur elle-même les effets. Elle y occupait des journées. Nicolas et Julie pouvaient donc employer les leurs à leur gré sans craindre, au détour d'une allée, la fâcheuse rencontre de Madame de Galando, dont Julie n'avait guère, après tout, à subir que les sermons, les réprimandes acariâtres et parfois les médicaments. Car, à certains jours, sa tante lui administrait d'autorité des bouillons d'herbes et des jus de plantes qui lui faisaient faire la grimace et dont elle se serait fort bien passée, car elle était naturellement fraîche et saine et robuste en sa rose jeunesse. Lui-même, à son âge, Nicolas n'échappait pas complètement à la médecine maternelle. De temps à autre, on le voyait, de grand matin, vêtu d'une robe à ramages, les mains sur le ventre et à pas pressés, traverser les corridors et courir à la garde-robe. Au jour de purge, Madame de Galando le tenait au château sans sortir, désœuvré et né aux vitres, pendant que Julie se promenait seule au jardin. Il profitait de ses retraites forcées pour écrire à l'abbé Hubertet. Madame de Galando lisait la lettre, en commentait la teneur et le tour, et c'est en y joignant une feuille pour remercier l'abbé de certaines graines qu'il lui avait envoyées de Rome, où il était encore avec M. de la Grangère, qu'elle terminait ainsi son message. Quant à ma nièce Julie de Mauceuil, dont vous avez eu la bonté de vous informer, je ne trouve que peu à vous dire. C'est une petite personne assez médiocre et qui ne promet rien. encore qu'elle se montre plus réservée qu'on aurait pu s'y attendre. Mon fils, qui s'occupe de la débrouiller, m'assure qu'elle apprendra avec assez de facilité. D'ailleurs, son séjour ici, pour cette fois, touche à sa fin. Dans une semaine au plus, M. de Fresnay viendra la prendre pour nous la ramener l'an prochain.